Alors, bonsoir et bonjour. En fait. Merci d'être présent pour cette rencontre autour de la nature dans la ville japonaise. Alors, je voudrais tout de suite remercier Monsieur Michel Veillard-Baron qui a eu la gentillesse de me recommander d'inviter Sylvie Brosseau pour cette rencontre. Et je voudrais tout de suite aussi remercier Sylvie Brosseau et Alexis Cavaillès d'avoir répondu à cette invitation autour de la nature au Japon. En fait, déjà pour vous expliquer, donc cette rencontre est enregistrée et vous pourrez la récupérer sur notre site. Et l'ensemble des références qui vont être évoquées aujourd'hui sont aussi présentes sur le site. Donc ne vous embêtez pas à prendre des notes de références, vous les retrouverez directement. Sinon, vous pouvez aussi profiter des petites tablettes qui sont dans les sièges si vous voulez prendre des notes confortablement. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, si l'on fait des études de japonais ou simplement si on s'intéresse au Japon, le thème de la nature est quasiment incontournable. Je me souviens que Jean-Michel Butel l'abordait dans ses cours de première année et globalement c'est vrai que le grand public est souvent fasciné par ce rapport des Japonais à la nature et souvent je pense qu'on s'en fait une image assez fausse et donc aujourd'hui l'idée pour aborder ce thème c'était de confronter à la fois le regard d'un artiste, Alexis Cavaillès, et d'un chercheur. Sylvie Brosseau. Et donc cette rencontre va s'articuler en trois temps. Dans un premier temps, on va avoir une projection des œuvres d'Alexis Cavaillès qui sera suivie dans un second temps d'une présentation de cette thématique par Sylvie Brosseau. Donc pour vous présenter, vous êtes architecte de formation, vous vivez au Japon depuis 1988, vous avez bénéficié d'une bourse du gouvernement japonais qui vous a permis d'étudier l'urbanisme au Japon, l'architecture. Oui. Et comment dire, aujourd'hui, vous êtes professeur à l'université Waseda de Tokyo. Et je voulais rappeler, avant de passer la parole à Alexis, que vous avez publié donc, de nombreux articles sur les pratiques culturelles des Japonais dans les parcs, Tokyoït. Vous avez publié aussi sur l'art de la promenade, la représentation globalement de la nature, que se font les Japonais de la nature, dans beaucoup de revues et d'ouvrages spécialisés. Et vous partagez votre intérêt pour le Japon et pour la nature au Japon dans un blog que je vous conseille de consulter qui s'appelle tokyo-paris-aller-retour.blogspot.com et voilà un blog passionnant. Mais nous allons maintenant passer la parole à Alexis Cavaillès. En fait, j'ai découvert vos travaux en feuilletant l'ouvrage, le premier ouvrage que vous avez publié qui s'appelle Via Baltica. Donc, il y a un ouvrage qui retrace votre périple dans les pays baltes avec Victor Vejvoda. Et ensuite, en explorant votre site dirlos.net, j'ai eu la surprise et le plaisir de découvrir les planches que vous avez dessinées lors d'un voyage au Japon en 2008. Et donc, c'est ce travail absolument magnifique qui s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez déjà publié, que j'ai eu envie de montrer aujourd'hui. En fait, vous êtes un artiste assez protéiforme, c'est-à-dire que vous êtes capable de passer à la fois de la photo au dessin, vous faites également des vidéos, et vous travaillez aussi beaucoup comme illustrateur auprès de quotidiens comme Libération ou au sein de revues comme 21. Et avant de voir votre travail sur le Japon, je voulais savoir quelle place occupe le voyage dans dans le processus de création.
Oui, pas voyager, c'était important. Ça me permet de voir autre chose que ce que je vois habituellement dans les livres, dans les musées. Voyager, ça permet d'aller à la rencontre d'un nouvel environnement.
Ça permet d'aller à la rencontre.
Oui, un nouvel environnement. Et qui permet de stimuler l'imagination. Ça m'apporte énormément. Parce que comme je suis souvent, j'ai besoin de nouvelles images, de nouvelles sensations, de m'apprendre à réfléchir. Et aussi de stimuler ce que je vois et le mettre sur le papier. J'ai vraiment besoin de ça. Si je ne voyage pas, je ne sais pas ce que je pourrais faire comme dessin.
En fait, le voyage est une source d'inspiration directe, en fait. C'est ce qui renouvelle votre rapport à la création.
Bien, la nature, c'est quelque chose de différent. Je sais pas trop comment l'expliquer. J'ai toujours été baigné d'une fascination pour les arbres. La forme du tronc que l'arbre vert. C'est quelque chose qui me fascine énormément. C'est protecteur. C'est magique. C'est un beau dessin. J'aime beaucoup votre dessiner. Les branches des arbres, c'est pas de tous les sens. S'il y a beaucoup de liberté. Au contraire de la ville, il y a l'architecture, les immeubles. Il y a une forme, une masse qui est droite, carrée. Ça me bloque beaucoup. J'ai besoin de la nature, pour cette liberté de le trait. Pour me lancer, pour faire ce que je vais faire.
D'accord. Et donc la nature est très présente dans votre travail. Et si on revient au voyage au Japon, à quelle période de l'année étiez-vous parti?
Pardon.
À quelle période de l'année êtes-vous parti au Japon, en fait, pour
J'étais
le...
parti en 2008. Hein.
Et c'était quelle saison?
C'est le printemps, en avril 2008. Hein.
D'accord.
Avec mon ami, hein, on a voulu partir à ce moment-là, hein, car on savait que c'était un moment très spécial pour les Japonais, et pour les Japonais spécialement. Et hein, c'est aussi le moment où la nature est célébrée. C'est l'histoire d'une fleur, ça s'appelle l'anami. C'est pour ça qu'on a voulu partir à ce moment-là. Mais vous
D'accord.
savez que cela était un peu difficile, hein, parce que c'est aussi la. C'est comment on appelle ça? C'est l'équivalent de la période des grandes vacances du Japon. Il y a tellement de monde qui va. Tous les hôtels sont surbookés. Mais on avait cette envie, on est allé quand même.
D'accord. Et vous vous souvenez de votre première impression au Japon?
Ma première impression du Japon, elle était un peu bizarre parce qu'on est arrivé à Tokyo. Et à Tokyo, c'est un autre monde. C'est l'image qu'on a du Japon, l'image habituelle, avec les immeubles. Tout ça, c'est pas agréable, hein, tout ça. Ce n'est que beaucoup plus tard que. En fait, le Japon, ça s'apprécie, hein, sur le terrain. Hein. On ne peut pas avoir une bonne impression du Japon une première fois. Je suis comme parti, à moi. C'est qu'à la fin du voyage que j'ai vraiment apprécié ce pays. Hein.
D'accord.
Voilà.
Alors, on va peut-être regarder maintenant le travail que vous avez effectué
Oui, hein,
au
bien
Japon.
sûr. Hein. Je vais vous montrer tout le dessin. Tout le dessin que j'ai fait du Japon. Donc, j'ai tenu pendant un mois un carnet de voyage. J'ai dessiné sur place. Tous les dessins ont été faits soit sur place, soit à l'hôtel. Je vais lancer. Voilà. C'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est le premier dessin que j'ai fait. On est arrivé à Tokyo. C'était bien pleuvoir. Il faisait nuit. C'était pas une belle impression. Il y avait pas. C'était un peu comme dans des films noirs de Yakuza. Ensuite, le voyage a avancé. On a pris le sac à chaîne. On a traversé les paysages. On a vu des gens. Tout ça. On est arrivé à Kyoto. La Kyoto, c'est différent. C'est une ville qui est vraiment magique. La première chose, quand on arrive à Kyoto, c'est la gare. La gare de Kyoto, c'est un bâtiment immense qui est très moderne, exactement comme à Tokyo. Mais du moment où on sort du bâtiment, ça change énormément. C'est vraiment une petite ville de province. Avec une rivière, des gens qui dorment par terre. C'est vraiment très différent. Ensuite, là, c'était des balades, hein, de la ville. Hein. C'est un dessin que j'ai fait. Dans les ruelles de Gion, c'est le quartier C'est le cas historique du Kitoum. Il y a ici une maison. C'est une petite maison. Un étage. Il y en a partout comme ça. Souvent devant ces maisons, ils mettent des pots avec des plantes. Des feuilles. Je n'ai jamais réfléchi. Pourquoi? Mais c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Je l'ai dessiné. Voilà, il y a aussi beaucoup de très, très vieux bâtiments. Je ne sais pas de quelle époque ils datent, hein, mais c'est vraiment très fascinant. Et ensuite, ce qui est vraiment spécial à Kyoto, hein, c'est les jardins secs. Hein. Le Japon, en partie, hein, c'est un pays hein, qui est bordé par les villes. Hein, tout autour, hein, il y a des bâtiments, des masses, mais à l'intérieur, c'est la montagne, hein, tout hiver. C'est vraiment. Je ne sais pas combien en pourcentage, 98% ou 90% du pays, c'est la montagne. Hein. Les jardins secs, hein, c'est au nôtre, dans un jardin, à l'intérieur, une cour. À l'intérieur des bâtiments. Et tout d'un coup, ce qu'on voit, c'est que des pierres, c'est minéral. C'est un peu comme la montagne elle-même. Il n'y a pas du tout de verre, il n'y a que des cailloux. Et ces cailloux, ils feront des traces. Des traces très belles. C'est ça qui m'a impressionné. Il y a des cercles, des traits. C'est très graphique, en fait. Hein. Voilà, là, j'étais en train de dessiner. Hein. C'est l'image du dessin précédent. C'est le Zen. Hein. Je ne sais pas vraiment à quoi il pond. C'est très avec les lignes. Hein. Mais ça évoque un océan. Quelle chose où tu peux te plonger, admirer un paysage qui est quand même artificiel. Ici, hein. Vous venez dans un endroit, c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé au Japon. C'est comme un temple qui est dédié à Dieu. C'est le dieu renard. C'est un petit animal qu'on appelle. C'est une divinité qui apparaît, qui est alliée aux agriculteurs. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce parc, c'est que c'est très sauvage. C'est une forêt, elle est immense, il y a des montagnes. Mais une fois, comme notre, on est guidé par des milliers de portes qu'on appelle des tories rouges. Et ces tories, on est sur un montant, on est guidé. C'est impossible de sortir du sentier tellement. C'est comme un circuit automatique. Hein. Ensuite, ici, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est un lieu qui est magique qui s'appelle Kobayashi-san, qui se trouve au sud d'Osaka. Et ici, ce que j'ai dessiné, c'est un cimetière. C'est un cimetière incroyable. Je l'ai découvert au Japon. Tous les cimetières font partie de la nature. Tous les cimetières sont dans les forêts. Il y a les pierres tombales. Mais ce qui m'impressionne, c'est que les arbres mangent les tombes, régénèrent les tombes, comme ici les morts, hein, retournent à la terre, qui renaissent sous la forme des arbres. Hein. Sakuya-san, hein. C'est ce cimetière-là. Hein. Ici, hein, c'est ce qu'on appelle, hein, comment ça s'appelle ici, les vies des chats.
Disons.
Voilà, disons. Oui, c'est des petits socles, hein, qui représentent un enfant, un bébé, hein, qui est mort prématurément. Et ces choses-là, ces pierres, vous les mettez au creux des arbres, hein, vous leur mettez un petit bavoir, hein, rouge, hein, vous les laissez, hein, ça m'a vraiment impressionné. Il y a comme un retour à la nature. En plus, il y en a des milliers partout. Hein. Donc, c'est l'histoire de Tignon Flour. Ça, c'est quand j'ai pris un train pour aller au Osaka depuis Kobayashi-san. On va travailler des paysages. Ensuite, on est arrivé à Himeji. Himeji, c'est à l'île sacrée pour les Japonais. C'est là où il y a un château. Un château du Shogun. Ensuite, Miyajima, ce qui est une île. Ou là, j'ai des Hiroshima. C'est une île. Il se trouve beaucoup de temples. Hein. C'est une île sacrée. Ici, il s'agit de Mokushu, hein, qui se trouve dans l'île, hein, Mokushu, qui est tout en bas du Japon. C'est une île très volcanique. Hein. Ensuite, dans l'île de Kyushu, hein, on a été dans un petit village qui s'appelle Kurokawa. C'est une station de thermale, hein, et beaucoup de Japonais vont préparer des bains pour aller dans des mécènes. C'est des sortes de piscines à l'eau chaude qui sont alimentées par la chevreuse de la montagne. C'est une ville, hein, qui est dans une petite vallée, hein, de colonne rivière, et tout autour. Hein. Il y a beaucoup d'arbres, hein, comme ici. Ça, c'est les bains. Ensuite, après, hein, on s'est déplacé dans une petite ville. Hein, sur le bord de la mer de Chine, hein, au nord du Japon, qui s'appelle Kanazawa. Si on avait voulu y aller ici, hein, c'est parce qu'il y a un jardin japonais qui est très connu dans le monde entier. C'est un tout petit jardin, il est vraiment magnifique. Hein. C'est un jardin qui a été travaillé depuis des siècles, hein, très étudié. Je ne sais pas vraiment quel âge il a. C'est la mer de Chine. Ensuite, on est revenu à Tokyo. À Tokyo, je n'ai pas pu beaucoup dessiner. Parce que le problème, c'est que justement, il n'y a aucun endroit pour s'asseoir. Au contraire, il y a d'autres villes. C'est une ville qui bouge énormément. Il y a beaucoup de mouvements. J'ai eu beaucoup de mal à dessiner cette ville. J'ai pris beaucoup de photos. Hein. Il y a une partie de Tokyo qui était très différente. Hein. Là, c'est les cimetières. Hein. Comme à Kobayashi-san. Voilà, c'est fini. Hein.
Merci, madame, pour cette présentation. On voit bien dans ces dessins, dans le rapport à l'espace urbain, en fait, la nature est très présente, elle est très invasive. Et elle tend, en fait, moi, je trouve qu'elle tend à faire disparaître l'aspect minéral propre aux villes européennes. Et au contraire, à Tokyo, on a vraiment l'impression de cette omniprésence de la nature dans la ville. Et donc, pour revenir sur juste la méthodologie, vous avez toujours dessiné dans la rue. Est-ce que les gens regardaient ce que vous avez fait ?
Pas vraiment. Les Japonais, ils sont très, très carrés. C'est ce que j'apprécie beaucoup chez eux. Hein. Parce que le problème, c'est qu'au Japon, il n'y a pas vraiment de place pour dessiner. Il n'y a pas de banc pour les personnes âgées. Tout est mobile. J'ai eu énormément de mal à trouver une place pour dessiner, spécialement à Tokyo. Et le plus drôle, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vu beaucoup de personnes âgées qui étaient assises par terre. Tellement, la pluie plus. Hein. Moi-même, j'ai dû m'asseoir par terre. Mais ça ne me plaît pas du tout. Hein. Alors j'ai pris beaucoup de photos. Hein. Mais par contre, à Kyoto, hein, c'était différent. Il y avait des bancs, j'ai pu dessiner. Hein. Il y avait des foules, hein. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Il y a un passage. Hein. Les Japonais, en même temps, ils sont très timides. Hein. Ils se mettent à l'écart. Par contre, les dauphins, c'est différent.
Les quoi ?
Les dauphins, les écoliers.
Les enfants,
oui, d'accord.
Coutume,
oui.
Quand je... Là, c'est... Mais ils savent que j'ai besoin de voir le lieu que je veux dessiner, d'où ils s'écartent. Mais c'est vraiment adorable. Hein.
Mais souvent ?
Adorable,
d'accord.
Adorable.
D'accord.
Oui.
Alors, peut-être maintenant, je vais passer la parole à Sylvie Brosseau pour revenir sur justement la dimension culturelle de la nature dans l'imaginaire et aussi dans la vie quotidienne des Japonais. Comme ça, après, on aura le temps aussi de faire un échange croisé, puis ensuite de vous passer la parole si vous avez des questions.
Oui.
Vous voulez vous asseoir ?
Non, c'est bon.
Je crois qu'il y a un problème de résolution, encore une fois. Je peux pas faire.
Non, mais c'est pas grave. Je vous remercie de votre invitation et je vous remercie à vous aussi d'être venu. Donc, je vais commencer par une citation d'un livre écrit par un poète japonais qui s'appelle Kamono Chōmei et qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle Notes de ma cabane. Il commence ainsi, hein. La même rivière coule sans arrêt, mais ce n'est jamais la même eau. De ci, de là, sur les surfaces tranquilles, de l'écume apparaît, disparaît, sans jamais rester longtemps. Il en est de même ici-bas, des hommes et de leurs maisons. Donc il écrit ceci en 1212. Ce texte a été republié l'année dernière avec une très très belle, très intéressante préface écrite par Madame Jacqueline Pigeot qui est ici. Je vous remercie beaucoup d'être venue. Et donc ce qui est intéressant dans ce texte, dans ce début, la première phrase, c'est qu'il établit des correspondances entre des faits de nature, l'eau qui coule, et des faits de société, en l'occurrence ici la ville. Donc des correspondances qui ont été élaborées par différentes sources de la pensée japonaise et qui révèlent une conception du monde, et notamment du monde construit, la ville. Donc la notion principale, primordiale qui apparaît, c'est celle du passage de toute chose. Un flux continu, écoulement d'énergie et de force créé par des interactions et des contingences sous-tend et imprègne toute chose, aussi bien le monde naturel que les comportements humains et ce que l'on peut construire. Je continue avec ce texte. Les maisons et leurs habitants sont semblables par l'impermanence. Tout disparaît et fait penser à la rosée sur le volubilis du matin. Tantôt la goutte de rosée tombe et la fleur demeure, La fleur demeure sans doute, mais bientôt se fane aux rayons du soleil levant. Tantôt la fleur se flétrit, tandis que la rosée reste. La rosée reste, mais elle ne dure jamais jusqu'au soir. Donc il continue ainsi. Donc le sentiment de l'impermanence et de la fragilité de toute chose conditionne de manière fondamentale notre expérience ici-bas. Tout est éphémère, transitoire et inachevé. Et l'instabilité intrinsèque du monde se révèle et s'éprouve à travers les changements incessants de la nature selon les saisons qui passent. Les conditions géographiques du Japon, notamment son insularité et sa situation entre les masses continentales au nord, la Sibérie, et des masses océaniques, du Pacifique au sud, génèrent des variations saisonnières qui sont très distinctes et très contrastées. Par exemple, à Tokyo, l'hiver est sec et ensoleillé, et refroidi, il peut être assez froid, refroidi donc par les vents qui viennent de la Sibérie, tandis que l'été, c'est tout le contraire. L'été est extrêmement humide, avec une très forte chaleur qui remonte du Pacifique tropical. Et ça, c'est le climat à Tokyo. Sur la rive de la mer du Japon, le climat est tout à fait différent. Donc, chaque région a un climat bien spécifique. Et donc, entre ces deux extrêmes d'hiver sec et d'été très chaud et humide, les intersaisons sont d'une grande variabilité et très marquées. Et les moments de basculement saisonnier sont vécus intensément, de manière collective et individuelle, à travers des phénomènes qui sont des phénomènes naturels de transition qui ont été choisis et mis en relief, en particulier la floraison des cerisiers au printemps et les feuillages rougeoyants à l'automne. Au Japon, comme d'abord en Chine, ces perceptions des éléments naturels, des saisons, puis leurs expressions sont imprégnées du sacré qui prend son origine dans le monde agraire. Donc des images se sont élaborées et diffusées d'abord à travers la poésie, médiation primordiale entre le monde naturel et les êtres humains. Donc par la médiation de la poésie, les phénomènes naturels révèlent l'intimité profonde de l'être avec le monde. La poésie exprime des sentiments ou des émotions qui vont accorder les lieux et les moments. Et donc ainsi, paysage intérieur et extérieur entrent en résonance et l'effet naturel exprime toujours des affects humains. Donc ce langage poétique a pu donc être partagé et il a nourri différentes formes d'expression. Il a contribué aussi à la perception des milieux, des paysages et à leur construction. Donc il y a des allers-retours ainsi entre la perception, la construction et cette élaboration de références communes. Donc se sont mises en place des conventions et des pratiques ritualisées qui associent de manière très fine, très subtile, des lieux et des moments, des paysages et des phénomènes naturels et qui vont insérer tout un ensemble d'éléments naturels, de phénomènes naturels, les végétaux, les insectes, les oiseaux, d'autres animaux, les météores, les eaux, les roches, etc. Des phénomènes célestes aussi. Ces références partagées, donc grâce à la poésie, et diffusées dans le temps aussi, sont issues d'une observation très fine de la nature et constituent autant d'expériences, voire de connaissances mises en commun. L'observation continue de faits naturels, perçus comme les manifestations privilégiées de la loi d'impermanence, donc cette observation de la nature est donc une voie qui mène à saisir la poignante fragilité du monde et de toute chose. Et c'est aussi une nourriture pour les sens et l'imagination, une source d'imagination ensuite pour maintes formes d'expression, donc la poésie, mais aussi les arts décoratifs, les jardins et la peinture. Les cycles saisonniers génère de multiples variations et métamorphoses très fortes, très marquantes, très impressionnantes, qui enchaînent croissance et dépérissement et renouveau. Et par exemple, il y a une expression japonaise que l'on voit apparaître au moment du Moyen-Âge, qui est Hikarakuyo, qu'on traduit littéralement par « les fleurs se dispersent et tombent les feuilles », qui exprime cette conscience du caractère fragile et éphémère de toute chose. Donc la nature n'est pas toujours consolation, Et s'il est un pays où elle le prouve avec violence et régularité, c'est bien le Japon. Par exemple, aujourd'hui, il y a eu au Japon 3 séismes de magnitude supérieure à 6, 2 dans la région de Hokkaido et 1 à Chiba, donc à côté de Tokyo. Et il y a eu également un glissement de terrain à Niigata qui a détruit une partie d'un village. Mais il n'y a pas de mort. Donc, capter un fragment de nature à un moment donné, le révéler à travers un acte expressif, un poème ou un jardin, constitue une étape dans le flux du temps qui est jalonné d'événements jamais répétés à l'identique. Il n'y a pas de retour cyclique, mais plutôt un déroulé temporel au cours duquel s'inscrivent des processus à caractère périodique. La nature au Japon n'est pas considérée comme un tout pendant longtemps. Et en japonais, d'ailleurs, il n'y avait pas de mot pour désigner. Le mot moderne, enfin, le mot n'est pas moderne, mais le mot shizen désigne la nature, en fait, depuis l'époque Meiji, pour traduire le concept occidental de nature ou nature. Avant, on n'utilise pas ce mot dans ce sens-là. Et il n'y a pas de mot pour la désigner dans son ensemble. Il n'y a pas de nature avec un grand N, de création ou conception globale, mais une multitude de phénomènes qui sont saisis dans leur immédiateté fragmentaire et leur immanence et qui sont intriqués dans le cours de l'existence humaine. D'abord, par l'expérience concrète et sensorielle et polysensorielle que l'on en fait. Pas seulement la vue, mais aussi les sons, les odeurs, les sensations, toutes les sensations. Donc le cours des saisons devient métaphore de la vie ordinaire de l'homme qui connaît tour à tour épanouissement et affaiblissement, joie et déception, rencontre et séparation. Les images, les métaphores suscitées par les éléments naturels au cours des saisons lèvent des émotions ambivalentes, mélange de plaisir et de mélancolie. Elles dépeignent le monde comme un processus sans fin et instable qui alterne des bas et des hauts, qui sont inévitables et qui sont nécessaires l'un à l'autre, et donc qu'il faut apprendre à connaître, à accepter, ce que permet justement l'observation des phénomènes naturels. Donc l'effet de nature incarne à la fois un flux vital et continu et l'impermanence, et ces faits de nature ont pris peu à peu la forme de dramaturgie, de performance ritualisée. Donc par exemple, c'est leur chute rapide qui donne sens à la beauté des fleurs de cerisier que l'on va admirer. C'est parce qu'elles vont disparaître très vite qu'on s'y intéresse et qu'on va les mettre en valeur. Et c'est leur fin prochaine qu'annoncent les somptueuses couleurs rougeoyantes des feuilles d'érable. Ici, ce qui est intéressant aussi dans cette image, c'est qu'on voit un jeune couple et ils ont posé leur bébé au milieu des feuilles, assis par terre. Donc, par cette pratique, on peut voir la transmission qui se fait de ces perceptions, de cette sensibilité, et, à travers donc, les pratiques des familles. La beauté de la nature, puissance génératrice, est celle de la vie. Sa valeur tient à son impermanence et le passage du temps, la teinte donc de mélancolie. Et l'être sensible à cette intimité avec les choses de la nature participe donc à ce cycle infini et puissant. Je vais vous citer un autre poète qui est Urabe Kenko, qui est mort en 1350 et qui a écrit aussi un autre très beau texte qui s'appelle Tsuretsure Gusa, les heures oisives, je crois, en français. Le déclin du printemps n'amène pas l'été, ni la fin de l'été, la venue de l'automne. Dès le printemps, un air d'été commence à se faire sentir. En plein été, déjà l'automne a pénétré. L'automne aussi bien ne se fait froid. Et voici au dixième mois, vers décembre, un air de petit printemps, l'herbe verte, les boutons de prunier. Ainsi de la chute des feuilles. Ce n'est pas elle qui permet l'éclosion des bourgeons, mais les feuilles tombent de ne pouvoir résister à la poussée de la sève qui monte. L'appel du renouveau était déjà préparé de l'intérieur, et c'est pourquoi le cycle du remplacement a un rythme si rapide. La succession de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort est encore plus rapide. Donc avec ces deux images, là c'est un couple de personnes âgées qui pique-nique sous un ginkgo à l'automne. On voit ce côté polysensoriel, on s'assoit par terre, on s'assoit dans les éléments. Le caractère fragile, transitoire, éphémère de la vie donc renforce la conception que la nature et les hommes partagent le même destin existentiel. Et donc il en découle une identification qui est évidente, qui est naturelle, on pourrait dire, entre la ville et la nature. La ville donc est perçue aussi comme un flux qui se renouvelle sans cesse, suivant des cycles très brefs, qui est toujours en devenir, en cours de destruction et de reconstruction sans fin. Une force qui va se joignant à celle de la nature. Les Japonais font valoir les spécificités et la richesse de leur environnement naturel, sa variété et sa profusion, à juste titre d'ailleurs, car la nature, la richesse faunistique et floristique de la nature au Japon est bien supérieure à ce qu'on peut trouver en Europe ou même en Amérique. Le Japon fait partie de ce qu'on appelle des hotspots de la biodiversité. Bon, pour des raisons climatiques, de l'histoire géologique, de nombreuses espèces d'arbres, de plantes, d'animaux ont survécu aux glaciations et donc on a une richesse réelle. Et donc les Japonais mettent en évidence cette variété, cette profusion et l'ampleur des changements. Et ces caractéristiques se retrouvent aussi dans la grande ville qui est en perpétuelle mutation et où les menaces de disparition et les capacités potentielles de renouveau semblent infinies. La conception de la nature et du temps, donc, modèle une forme spécifique de la ville et l'inscrit dans un grand flux vital qui est le principe majeur qui mène l'univers. Donc il y a une naturalisation des faits sociaux et culturels et il en découle des continuités plutôt que des oppositions entre le naturel et l'artificiel, entre le brut et le policé. Il en découle donc des porosités entre la ville et la nature. Donc on n'est pas dans un registre, dans un régime d'opposition, mais plutôt même entre nature et culture, on peut parler plutôt de position de chevauchement. Le changement graduel ou catastrophique, donc graduel suivant les saisons, catastrophique quand les calamités s'ajoutent à ces changements graduels, donc correspond au Japon à des expériences qui sont bien réelles. Donc il y a les variations des saisons, les calamités causées par les éléments naturels et également la folie des hommes. Par exemple, le Kamono Chōmei, dans le premier texte que je vous ai cité, il continue en exposant toutes les destructions de la ville qu'il a connues, lui, à l'échelle de sa vie d'homme. Donc il cite des séismes, il cite une tempête absolument incroyable, il cite des incendies et il cite aussi les guerres. Donc, des séries de catastrophes se sont répétées partout au cours de l'histoire sur toutes les villes du Japon. Donc, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les destructions de Edo et de Tokyo pour ne pas trop plomber la soirée quand même. Mais l'impression de précarité souvent perceptible à Tokyo a aussi des causes bien réelles puisque la ville est établie sur 19 failles sismiques actives. Donc, la ville est tenue d'emblée pour périssable. Elle subit des aléas qui font partie de l'ordre des choses et après chaque désastre, elle se reconstruit à l'image de la nature qui se régénère. Et cette façon d'accepter l'impermanence comme un état de fait au Japon n'est pas de l'ordre du fatalisme, mais relèverait plutôt d'une forme de vitalisme qui est une source d'attitude pragmatique et positive, littéralement constructive, car l'écoulement des choses ou leur écroulement est toujours à l'origine du nouveau, du renouveau. De toute façon, la culture n'envisage pas du tout le rapport du bâti avec le temps dans la durée. Par exemple, à Tokyo, la durée moyenne de vie d'une maison est de 25 ans. Mais le temps intègre les œuvres des hommes, les œuvres humaines, au flux des forces de la nature, du fait même de ce caractère périssable. Donc, par exemple, en japonais, on appelle toutes les rivières kawa. En général, elles ont été canalisées, leur tracé a été refait, redessiné. Mais on appelle tout kawa. Il y a un mot pour dire canal, mais on l'utilise par exemple pour parler du canal de Suez ou du canal de Panama. Mais tout est kawa, tout est avec le même mot. On ne fait pas de distinction entre un ruisseau ou une rivière qui serait intacte, complètement naturelle, ou toutes les rivières, tous les cours d'eau qui ont été retravaillés. Donc l'idée du temps comme passage, comme métamorphose, renouvellement cyclique, s'incarne dans la réalité sensible par d'abord les fleurs de cerisier au printemps et les feuillages, donc surtout des érables, à l'automne. Donc ces deux cartes donnent, vous avez à gauche la carte des cerisiers pour cette année, les prévisions qui sont faites, et à droite c'est le front des érables à l'automne. Et ces cartes sont diffusées au Japon par tous les médias. D'abord, il y a une première prévision qui est faite à peu près un mois à l'avance. Et ensuite, quand on arrive dans la période, la carte est donnée tous les jours, dans les journaux, à la télévision. Et c'est quelque chose qui est absolument impossible. Enfin, on ne peut pas y échapper. Donc, entre ces deux moments, une multitude de phénomènes se succèdent. Entre donc, ces deux moments charnières de retournement de saison et sont également sujets d'expression culturelle. Mais, donc, comme je l'ai dit, la nature, dans la culture populaire aussi bien que savante, c'est plus qu'une source d'inspiration, c'est vraiment un référent suprême de la culture et qui tend, au moyen de l'artefact, à rejoindre la nature et en être l'aboutissement conscient. Donc, le jardin représente cet aboutissement conscient de la nature. Le jardin dans lequel on n'hésite pas à construire de façon complètement artificielle de toutes pièces une source. Donc, par exemple, dans le traité des jardins, le Sakuteiki, il y a tout un chapitre qui est consacré à la construction d'une source. Comment construire une source ? Donc, on peut avoir l'impression de quelque chose de tout à fait naturel, une source. En réalité, c'est quelque chose qui a été construit et placé à un endroit de façon tout à fait volontaire. Donc, je vais vous parler donc d'un de ces exemples, un autre exemple de cette façon, un exemple d'un parcours entre nature et culture. Donc, avec les jardins de pivoine d'hiver, donc on arrive au Japon, donc on fait fleurir des pivoines en janvier. Voilà, donc c'est un jardin qui se trouve à Ueno. Derrière, on voit une pagode qui est un rare vestige de l'époque Edo à Tokyo. Donc cette floraison est très révélatrice des liens avec la nature qui sont extrêmement construits par la nature, par la culture japonaise. On a commencé à faire cette floraison poussée, très élaborée, très sophistiquée au XVIIIe siècle. C'est une période de grand essor de l'horticulture. Parce que la classe des bushis, la classe au pouvoir, la classe des guerriers, se retrouve être des guerriers sans guerre, donc à avoir du temps. Ils ont de grands jardins. Certains guerriers vont manger leur fortune dans leur jardin. Et donc, on réussit à faire à pousser la fleur. Donc, c'est une variété de pivoine qui fleurit deux fois. On supprime une floraison et la deuxième se fait plus tard dans la saison, en hiver. Normalement, les bourgeons vont geler, mais on fait cette petite cape de paille qui crée un microclimat et qui protège la fleur de la neige ou de la pluie s'il y en a. Donc le fin du fin, c'est d'apprécier la fleur avec la neige sur la cape, qui recouvre la cape. Et donc elle est protégée par ce microclimat. Donc pourquoi les Japonais souvent parlent d'harmonie avec la nature. Donc plutôt qu'une relation d'harmonie, il faudrait peut-être parler davantage d'alliance et d'alliance très construite et très sophistiquée. Alors dans quel but ? Pourquoi faire fleurir les pivoines en janvier ? Le but, certainement, enfin l'objectif, c'est de goûter un moment. On va pouvoir profiter, saisir, capter un moment bien précis dans ce lieu approprié. Donc un moment qui va être révélé par sa beauté éphémère. Et on va pouvoir le partager, on va pouvoir partager un bref et délicat plaisir poétique. Donc ce qui est assez surprenant, c'est que la pivoine, c'est une fleur qui est venue de Chine, qui est une fleur très, très sensuelle, très voluptueuse. Et dans le froid de l'hiver, là, cette année, quand j'ai fait cette photo, il y avait un vent glacial. Donc, on ressent encore plus fort cette fragilité de la fleur. Donc, en fait, c'est toujours de notre condition précaire et transitoire donc, qu'évoque ce fait de nature qui est mis en scène ainsi sous la forme d'un paysage dramatisé, dramatique, une sorte de dramaturgie. Avec, on peut ajouter, le goût de l'époque d'Edo, donc celle du XVIIIe siècle, hein, qui a élaboré cette technique horticole, un goût pour le bizarre, l'étrange, ce qui sort un peu, ce qui est très très sophistiqué. Donc à la sortie du jardin, on peut écrire un poème, laisser soi-même une petite trace de son passage. La culture urbaine donc, qui s'est élaborée à Edo, donc Edo c'est l'ancien nom de Tokyo, a particulièrement enrichi les relations entre la ville et la nature. Et cette ville d'Edo, qui est une ville qui a atteint 1 500 000 habitants au XVIIIe siècle, qui était déjà la plus grande ville du monde, est même considérée par des chercheurs japonais, des architectes, des historiens de l'architecture, comme la matérialisation de l'idée de nature élaborée par la culture japonaise au fil des siècles. Donc c'est la ville qui va être l'apogée de l'idée de la nature au Japon. Pourquoi ? Parce que dans le creuset de cette ville, de cette grande ville qui était au départ un village, une bourgade de pêcheurs, donc il y a une croissance très très rapide, il va y avoir une fusion de la culture esthétique héritée de l'aristocratie de cour, donc cette tradition poétique que j'ai évoquée, avec tous les rites agraires qui sont venus de différentes régions du Japon, parce que ses habitants, les habitants d'Edo arrivaient d'un peu partout. Et tout ça, ça a fusionné au sein de pratiques renouvelées par l'hédonisme de ce peuple d'Edo. Donc, avec une population de marchands, d'artisans et de petites gens. Et ces pratiques donc, vont former une culture urbaine tout à fait spécifique qui va se diffuser par des actes. Donc, on peut parler d'une urbanité en acte qui est encore très vivante et qui manifeste l'appréciation d'une infinité d'éléments et de phénomènes naturels. Alors, on va voir quelques exemples. Donc ça, c'est un ouvrage donc, qui présente l'almanach, donc des fleurs, de tout ce qu'on peut voir, classé par lieu. Et donc là, on a une représentation de tous les types de cerisiers, des différentes hybrides qui ont été créés à cette époque, donc qu'on peut trouver à Ueno. Ici, donc, le site de Ueno, moment des cerisiers, où on admire l'étang depuis une terrasse avec en contrebas des cerisiers. Et à Ueno, donc au printemps, on va admirer les cerisiers. Et l'été, on va sur l'étang pour aller voir les fleurs de lotus, même plus exactement, écouter les fleurs de lotus s'ouvrir. Donc on disait que Ueno était un lieu agréable pour les cerisiers au printemps, pour les lotus en été, pour la lune à l'automne qui se reflète sur l'étang, le pin évoque la lune, la forme de la lune, et pour la neige, le paysage enneigé en hiver. Donc on peut profiter de Ueno à toutes les saisons. Donc c'est différentes. Donc la nature, suivant les saisons, est saisie dans son perpétuel changement. Donc toutes ces pratiques très très multiple et très ritualisé, structurer le cours de la vie des habitants d'Edo selon un calendrier social accordé au rythme des saisons et jalonné par de nombreuses visites ou des sorties festives, récréatives, des excursions dans des temples, des sanctuaires ou des lieux célèbres qu'on appelle des meisho, des lieux renommés où l'espace et le temps, le moment fusionnent et où même l'espace est subordonné au temps. Donc ici, on a un jardin qui a été ouvert par un shogun, qui était un jardin privé, qu'il a ouvert aux habitants de la ville. Ce type de paysage, c'est une image très bon marché, hein, une estampe bon marché à l'époque, est assez intéressant parce qu'on a une vue sur la mer, avec en contrebas la ville, et le paysage, enfin, ce que indiquent les trois femmes, c'est en fait tout à fait à gauche, on voit deux monts, c'est le mont Tsukuba, donc c'est ce qu'elles sont en train de regarder. Et on voit arriver deux hommes qui sont en train de gravir la côte, et donc on peut imaginer qu'on est à un moment de juste avant la rencontre. Donc on profite de l'instant, de ce moment de la floraison des cerisiers, du paysage, et on va profiter d'occasions qui vont aussi se produire lors de ce moment-là. Alors ici, ce qui est intéressant dans cette image, c'est toutes les pratiques que l'on peut voir dans ce paysage qui est un peu du même type, on a la même composition que tout à l'heure. Alors, si on regarde les personnes, à gauche, on voit deux hommes qui sont assis, qui sont en train de manger et de boire. Ensuite, sous le grand érable, on voit une buvette avec une dame qui se tient. Ensuite, on voit une femme avec deux petits-enfants, des personnes qui sont assises ou qui regardent. Une personne regarde avec une longue vue. Et puis ensuite, on voit encore d'autres personnes qui se promènent, qui discutent. Et à la fin, à droite, une autre buvette. Voilà, ici, donc, c'est un site qui était connu, un site célèbre à l'époque Edo pour admirer les cerisiers, donc le long de la rivière, des cerisiers qui ont été plantés au cours du XVIIIe siècle. Là, le lever de la lune. Donc à gauche, le bâtiment, c'est un restaurant en fait, un restaurant d'où on peut profiter du paysage. On peut aussi profiter du paysage sur les barques. Feu d'artifice en été. Ici, les fleurs, une fleur caractéristique du début de l'automne. Là, deux restaurants dans un temple où l'on allait particulièrement au moment de la neige. Et là, deux types de façon de cadrer les paysages. Donc des jardins qui ne sont pas des temples, qui sont à gauche un verger où on produit des fruits, hein, umé, et à droite, au milieu des rizières, donc un jardin d'iris. Alors la façon de cadrer montre que les hommes, en fait, n'ont pas plus de valeur que la fleur. La fleur vient en premier plan, elle est très grande, et les hommes sont comme des petits insectes derrière, et donc nous ne sommes pas plus que ces fleurs-là. Nous n'allons pas durer beaucoup plus longtemps, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, bon, on peut commenter plus largement. Là, je ne vais pas détailler non plus. Donc, à droite, les pétales de cerisier tombent sur l'eau en évoquant la neige. L'image de gauche, c'est le paysage de la même rivière sous la neige, avec un poème qui évoque la neige qui fond sur l'eau et qui évoque la mouette. Et là, donc, on a une référence à la poésie classique, à Issei Monogatari, et donc la littérature classique qui est en fait intégrée dans cette culture populaire de la ville d'Edo. Donc cette urbanité en acte, dont j'ai évoqué quelques images, donc tous ces principes de pratiques ritualisées restent toujours valables aujourd'hui. Donc, par exemple, ici, c'est un calendrier qui est édité par donc une association, l'Association des parcs et jardins de Tokyo, et qui donne pour tous les jours ce qui est écrit en petit sous chaque date, c'est ce qu'on peut voir chaque jour. Alors, par exemple, aujourd'hui, on est le 14 mars, donc on peut voir les kobushi, ce sont des magnolias. Il y en a dans le jardin du musée du Quai Branly. Donc, ce sont des magnolias qui sont ici à Paris. Il y en a aussi sur le côté de l'hôtel de ville, des magnolias qui sont tout en fleurs. Et avant les feuilles, donc c'est une floraison aussi qui est comme celle des cerisiers, il n'y a pas de feuilles, il y a seulement des fleurs assez spectaculaires. On peut voir aussi le 14, la pleine floraison des camélias, tsubaki. Hier, le 13, c'était la fauvette que l'on pouvait écouter pour la première fois dans un jardin. Et demain, ça sera une fleur tropicale dans une serre. Donc, des plantes qui ne sont pas japonaises sont aussi intégrées dans ce calendrier. Voilà. Alors, donc, une de ces pratiques la plus emblématique, c'est celle, bien sûr, des cerisiers en fleurs qu'on appelle donc hanami. Donc, elle offre cette pratique, le modèle le plus archétypal et qui a servi d'ailleurs de modèle pour les autres appréciations d'autres phénomènes naturels. Donc Hanami ici à Ueno. Ueno, donc c'est un parc qui est vraiment le hotspot de Hanami au moment des fleurs de cerisier. Alors le calendrier dont je vous ai parlé tout à l'heure est extrêmement important. Les prévisions sont faites par l'Agence nationale de la météorologie. Et de fixer la date de la pleine floraison des cerisiers, ça n'est pas quelque chose qui est anecdotique, parce que, par exemple, à Ueno, en quelques jours, la floraison des cerisiers, c'est à peu près une semaine, il va y avoir des millions de personnes qui vont venir. Donc, il faut organiser ces visites. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il y a les poubelles qui sont installées. Alors, en plus, comme il y a un tri sélectif qui est très pointu au Japon, il faut organiser des batteries de poubelles de façon très, très précise. Il faut installer aussi des toilettes publiques. Il faut installer la sécurité, l'éclairage. Donc la date doit être juste. Il y a aussi des lieux dans tout le Japon où les tours opérateurs ou les hôtels reçoivent des clients. C'est un moment qu'il ne faut pas rater. Donc si la date n'est pas bonne, ça a des conséquences importantes. Et donc il y a 4 ans, l'Agence nationale de la météorologie a fait une erreur dans sa prévision. Ils ont intégré dans l'ordinateur qui fait le calcul, ils ont oublié de mettre un paramètre. Et donc, il y a eu un décalage qui s'est produit. On a pu rattraper l'affaire au dernier moment. Et la floraison, en fait, est arrivée un peu plus tard que ce qui avait été prévu. Bon, on pouvait le voir par sa fenêtre en disant, mais ils annoncent, mais c'est pas encore fleuri. Mais quand même, les hôtels, les gens vont organiser leur voyage. Les villes, toutes les villes, dans les villes, plusieurs lieux doivent organiser donc toute cette installation. Et donc, l'Agence nationale de la météorologie s'est excusée, son directeur s'est excusé au journal télévisé en s'excusant donc de tous les meiwaku, tous les problèmes qu'il avait causés dans tout le pays. Donc, c'est très, très important. C'est une cause nationale. Donc, cette célébration des cerisiers est populaire et collective. Elle est une occasion de faire la fête à ne pas manquer, mais elle nous permet de fêter donc le début de l'année. Avril, le début d'avril, c'est le début de l'année au Japon. C'est le début de l'année scolaire, universitaire. C'est le début de la session, des sessions parlementaires. C'est le début du championnat de baseball. C'est le début de l'année fiscale aussi. Donc, c'est la rentrée. Donc, c'est une signification collective très importante. Et donc, on va fêter le renouveau du printemps, la promesse d'une année que l'on souhaite fertile et intéressante. Et c'est aussi donc jouir de cette beauté très éphémère des fleurs, puisque ça dure une petite semaine. Et donc, c'est rester conscient de cette impermanence du monde. Alors, donc, c'est une occasion de... C'est le premier travail, en fait. Les nouveaux employés donc, sont recrutés pendant l'hiver et ils commencent à travailler le 1er avril. Et un de leurs premiers jobs aux jeunes, c'est d'organiser Hanami pour leurs collègues, pour les collègues du service. Et donc, les plus jeunes vont partir dans le parc. Alors, vous imaginez, dans ces parcs, si vous voulez un bon endroit, il faut arriver le matin tôt et réserver la place. Donc, ils vont rester là toute la journée. Ils vont préparer des cartons. Là, ils préparent des cartons pour faire la table. Ses amis sont allés faire les courses. Et lui, il reste là parce qu'il ne faut pas se faire piquer la place. Donc, on peut parler d'un rite de passage tel que, par exemple, les anthropologues comme Van Gennep ou Fraser les ont décrits. Le rite de passage en trois périodes, la séparation d'un groupe de l'ensemble du groupe, ensuite une phase liminale d'attente, il faut attendre toute la journée là, le temps est très variable, il peut pleuvoir, souvent il ne fait pas très chaud, ça peut être même assez frais, voire froid, mais il faut attendre, et puis le soir, troisième phase, la réintégration du groupe des jeunes dans le groupe général. Voilà, et tout le monde fait la fête et s'amuse ensemble. Et on boit beaucoup. Voilà, donc toujours le même site, ça c'est un autre endroit. Donc vous avez une rivière complètement artificialisée, canalisée, bétonnée, et les cerisiers. Alors, les groupes sont de configuration très variable. Ça peut être la famille, un groupe d'amis, un groupe d'étudiants. Ici, c'est un jour de semaine dans un parc d'un quartier résidentiel. Donc, ce sont des jeunes mères avec leurs enfants. Donc là encore, cette idée de la transmission qui se fait par la famille, mais qui se fait aussi par les structures collectives. Si on va à la crèche, on fait Hanami avec ses amis de la crèche dès qu'on a 3 mois. Le paysage dans la rue, donc une espèce d'explosion tout à fait impressionnante et fascinante. Voilà, donc la fin de la floraison, les pétales qui vont sur l'eau, et un parc donc, qui est très très renommé pour les cerisiers à fleurs doubles. Après les cerisiers, donc les pêchers. Voilà, ici le groupe, c'est un groupe de dames qui travaillent dans les auberges de l'arrondissement de Edogawa, donc un groupe professionnel dans la rue. Donc cette culture urbaine qui s'est épanouie à Edo a particulièrement magnifié, je l'ai dit tout à l'heure, la relation entre la ville et la nature, et elle peut être considérée donc comme l'apogée de l'idée de nature élaborée par la culture japonaise. Le milieu naturel donc jouait à Edo un rôle de référent primordial, et dans la cité, de nombreux lieux, les bois, les allées plantées, les jardins, jusqu'aux plantes en pot, multipliaient les liens avec la nature, et avec la nature en tant que référent primordial. Et dans la ville actuelle, dans le Tokyo moderne, des fragments de cet ancrage à la nature originelle demeurent. Ils sont essentiels, c'est eux qui rendent la ville vivable et conviviale, et c'est là que réside sa beauté, la beauté de Tokyo. Donc ces bribes de nature sont toujours présentes, sont constituées souvent donc d'arbres embosqués qui se trouvent dans les sanctuaires ou dans les temples, d'alignements, donc aux abords des sanctuaires ou des temples, voilà, donc des temples dans la ville. Dans les sanctuaires Shinto, la divinité, elle n'est pas dans le bâtiment, elle est plutôt dans les arbres qui accompagnent le bâtiment. Ici, c'est une allée sacrée qui a été faite au début du XXe siècle, donc qui est droite, et la rue s'appelle Omotesando, donc ça veut dire c'est la voie sacrée et principale qui mène au sanctuaire. Donc un sanctuaire qui a été construit au début du XXe siècle pour honorer l'empereur Meiji. Et cette avenue maintenant est devenue l'équivalent des Champs-Élysées, hein, où s'alignent, c'est l'avenue où s'alignent les boutiques les plus chics de la ville. L'entrée de ce sanctuaire, et ce sanctuaire est entouré d'une forêt qui a été plantée à partir de 1912, donc il va bientôt avoir 100 ans, et qui fait 80 hectares et qui se trouve exactement dans le centre de la ville. Donc maintenant, bien sûr, elle est considérée comme une, pour sa richesse environnementale, écologique, vraiment exceptionnelle. Donc cette nature, on la trouve également dans les jardins. Donc elle va être organisée dans des parcs et jardins, dans les jardinets des habitations. Donc ça, c'est mon quartier, hein, c'est le quartier où j'habite. Donc un jardin de type traditionnel avec une haie vive, ici un jardin qui devient encore plus réduit mais extrêmement planté. Ces plantations très près de l'habitation permettent en été d'avoir de la fraîcheur. Version contemporaine. Ici une maison tout à fait ordinaire, le type de construction qu'on trouve beaucoup, on rajoute des morceaux, etc. Et avec, sur un angle, une composition avec une richesse de fleurs, mais de rochers aussi, tout à fait incroyable. Voilà, donc on trouve une nature qui va être disséminée, diffuse, dans la ville. Ça, c'est un de mes voisins. Et c'est un jardin uniquement fait avec des pots. Donc, il est habitant, locataire d'un tout petit appartement et il s'occupe de ça. Si on n'a pas de jardin, on utilise le trottoir et on dispose des pots de fleurs sur le trottoir. Voilà, donc ça c'est un fleuriste, mais tout ce qu'on trouve sur le trottoir, en fait ce sont ses plantes à lui, ce n'est pas à vendre. Ici c'est un de mes voisins immédiats qui fait des bonsaïs d'azalée et qui n'a pas de jardin. Il utilise pour faire ses plantations un petit triangle de terrain résiduel du parking qui est en face, qui est de l'autre côté, donc on utilise aussi pour mettre le linge. Et voilà, c'est la fin de la floraison qu'il enlève très délicatement. Donc des ruelles avec une végétation diffuse qui s'est en général plantée de façon spontanée. Ici, un quartier où il y a particulièrement des haies vives et des plantations, et qui est devenu maintenant un lieu très touristique à Tokyo. En dehors des plantations, on a des éléments artificiels qui rappellent les saisons, donc surtout à l'automne ou au printemps. Voilà, on met ce genre de décoration dans les rues commerçantes. Donc, cette présence vive et dense de la végétation qui est disséminée ici et là conserve la mémoire d'un paysage archétypal à valeur collective et individuelle qui est très important, qui est fondamental, qui est en fait celui de la montagne couverte de forêts, d'où l'eau sourde. Donc, comme a dit tout à l'heure Alexis, le Japon est constitué à 80% de montagnes qui sont couvertes de forêts. La forêt représente 70%, quasiment 70% de la couverture de tout le terrain, de toute la superficie du territoire national, ce qui est énorme pour un pays aussi habité et aussi industrialisé. La forêt, donc, c'est fondamental. Et dans la ville, donc, des symboles survivent et persistent dans des lieux microcosmiques, donc, que j'ai pu vous montrer, les bois, les jardins et les plantes en pot. Et ces lieux, donc, même les plus étroits, parviennent à créer une sensation de profondeur cachée ou de luxuriance vive et susciter à la fois une impression de distance, d'éloignement et d'enveloppement. Donc, je vais vous montrer un exemple. On a vu tout à l'heure la vue de la ville. Donc, ici, le bois que l'on voit, c'est un sanctuaire. Donc, ça, c'est l'entrée du sanctuaire. Donc, on est en bas dans la ville. Là, c'est l'escalier, la montée. Et donc, on monte et on passe dans un autre univers. Voilà. Et on est en haut. On ne voit plus la ville. On est dans un espace complètement... enfin, des paysans, on se trouve transporté dans un autre temps, on est dans un autre espace. Donc, dans ces lieux microcosmiques, la présence vivante s'incarne par les phénomènes naturels au cours des saisons. Et donc, le retour des saisons et de tous ces rituels qui les accompagnent s'y accomplit. Et donc, à Tokyo, même si l'espace urbain a été si profondément modifié, ce champ de référence imaginaire, symbolique et esthétique de la nature et de ses temporalités demeurent. Alors, je vais vous montrer des images. Il faut arrêter peut-être là. Non, ça va.
C'est plus pour avoir un débat avec la salle. Le cours
des saisons. Hein. Donc, après les cerisiers, on a les azalées. Donc, ça, ce sont des gares, un jardin, un temple, un autre temple, les glycines, les hortensias, encore un pavillon pour laisser des poèmes, les iris, la chasse aux libellules, la pêche aux écrevisses, donc dans un grand parc où l'eau a un rôle très important. Donc toujours cette polysensorialité, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans l'eau, on peut marcher, s'asseoir, l'air pour le barbecue dans le même jardin. Un endroit où on peut s'isoler et observer les oiseaux, en fait du bird watching, c'est le mot qu'on utilise. Hein. Une gare avec les hortensias. Les lotus à Ueno, le marché au Volubilis. Des activités de photos, une fête qui a lieu, une fête qui est une création tout à fait récente sur une plage artificielle. On est dans l'artificialité la plus totale. Donc la lumière et l'eau. Ici, une manifestation anti-nucléaire, donc le 19 septembre dernier. À Tokyo, il n'y a pas de place. Donc quand on fait une manifestation, on part d'un parc et on arrive à un autre parc. Et donc là, on était dans un parc, le parc Meiji, et la personne qui est devant moi a fait un éventail fixe. Il y a écrit « Au revoir, adieu le nucléaire ». Et elle a peint un élément de saison. On est en septembre, c'est la fleur de Physalis, le fruit de Physalis plus exactement. Voilà, d'autres fleurs, donc l'automne. Ici, dans ce sanctuaire, c'est un habitant du quartier qui cultive des chrysanthèmes. Il n'a pas de jardin, donc il utilise le terrain du sanctuaire pour faire ses plantations. Toujours la photo, mais aussi le dessin, la peinture. On est en novembre, la petite fille est pieds nus. Ici, donc, des installations pour protéger les pins de la neige. Donc, de la contingence, comme avec les pivoines, on fait un élément esthétique qui s'intègre dans le jardin. Donc, des sites recréés sur des terrains artificiels comblés dans la lagune, enfin dans la baie de Tokyo. Donc, on recrée des lagunes et on observe à nouveau le retour des oiseaux migrateurs. Voilà. Et la fête des pruniers dans un petit sanctuaire de quartier au pied d'un immeuble type HLM. Donc, une réunion poétique d'un groupe local de ce quartier. Hein, on a fait des poèmes illustrés. Et les cerisiers. Et voilà, le cycle est bouclé. Alors, juste, je voudrais finir sur la situation actuelle. Donc, le Japon est né sur une faille et à chaque instant, donc de façon tout à fait imprévisible, tout peut être enseveli ou englouti. Et donc, ce méticuleux calendrier des rites saisonniers et toutes ces expressions sensibles et visibles ont sans doute un pouvoir rassurant d'ancrage dans le temps, alors que l'espace, lui, peut se dérober. Mais quand tout a disparu, le prunier qui, malgré tout, refleurit, annonce que la vie peut reprendre. Et donc, les habitants du Tohoku, qui ont été l'an dernier triplement frappés le 11 mars par un tsunami, un séisme d'abord, un tsunami et la catastrophe nucléaire, n'ont surtout pas manqué de fêter, de célébrer les cerisiers, Hanami, quand la saison est arrivée. Autrefois, les séismes manifestaient le mécontentement du poisson-chat qui vit dans le sous-sol et qui est une évocation des forces souterraines de la nature. Et en même temps, pour les habitants de Edo, enfin à l'époque Edo, quand ce poisson-chat se manifestait, c'était parce qu'il était mécontent. Il était mécontent des gouvernants et des dirigeants. Il manifestait donc sa réprobation sur la conduite des affaires. Et pour beaucoup de Japonais, cette crise révèle de la même façon les inconséquences de l'État. Elle montre que cette démesure orgueilleuse qui s'est emparée des humains entraîne un oubli des risques qui ont de graves conséquences. Les économies d'électricité dues aux restrictions après donc, cette crise, l'été dernier, ont obligé de redécouvrir en été Tokyo. Donc, redécouvrir la vie sans climatiseur, la nuit sans néon. Et donc, on s'est remis à faire de façon beaucoup plus systématique des rideaux de verdure aux fenêtres. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, cette crise a obligé à retisser des liens avec une saisonnalité du quotidien. Donc, c'est dans un immeuble qui est en face de chez moi, en fait. C'est un immeuble résidentiel. Donc, non seulement les habitants des maisons, mais les habitants d'immeubles collectifs, voire même des immeubles de bureaux, ont fait ces rideaux de verdure pour avoir de la fraîcheur. Donc, la question qu'on peut se poser, enfin, l'interrogation que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est que, est-ce que cette tendance va s'amplifier, donc celle de retisser des liens avec une saisonnalité du quotidien? Ou bien est-ce que ça va être simplement une parenthèse qui va être fermée par la décision bureaucratique qui va autoriser le redémarrage des centrales nucléaires à partir de l'été prochain? Voilà, on en est là. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Moi, j'ai une question qui m'est venue en vous écoutant, Sylvie Brosseau. Finalement, j'avais l'impression qu'il y a quand même une dimension très construite dans le rapport des Japonais à la nature. Et avant le 11 mars, quelle était la conscience écologique des Japonais? En fait, je veux dire, est-ce qu'il y a un rapport... est-ce que l'écologie était très présente, telle que nous, peut-être, on l'a conçoit en Europe, parce que j'imagine que depuis le 11 mars, il y a eu un éveil peut-être différent assez.
Oui, enfin, c'est-à-dire
cette
que
vision politique.
Oui, il y a une conscience écologique au Japon qui est assez ancienne, puisqu'en fait, même il y a des penseurs de forme d'écologie politique à partir de catastrophes qui ont eu lieu au 19e siècle. donc avec des pollutions dues à des mines de cuivre, etc. Donc il y a une pensée par rapport à l'environnement. Les premiers parcs nationaux ont été créés au Japon. Le premier parc national, c'est dans les années 20. Donc c'est une conscience qui est très ancienne. En même temps, ça n'empêche pas de continuer à détruire. Hein. C'est un peu comme ce qui se passe ici. On détruit d'autant plus qu'il y a cette espèce de continuité entre le naturel et le culturel. Donc c'est peut-être encore plus difficile de s'y opposer. Mais il y a une conscience écologique et des mouvements d'habitants qui ont des actions très localisées, très ponctuelles et très efficaces donc depuis très longtemps, donc depuis même le 19e siècle. D'accord. Alors depuis le 11 mars, bien sûr, il y a une visibilité de tous les mouvements antinucléaires qui s'agitaient localement et qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas beaucoup d'écho. Mais là, bien sûr, l'écho est complètement différent.
Je me disais que pose aussi les vies. Hein. J'ai remarqué dans les photos que c'est très contemplatif. Hein. Et beaucoup de Japonais qui viennent peuvent voir, peuvent faire communion avec la nature, l'environnement. Mais ce qui est frappant, c'est que les Japonais soient et soient debout, regardez. Soit ils sont assis sur des petits tabourets. Pas de petits photos, je n'ai vu aucun banc, aucun endroit. Peut pas ici des cartons, on s'assoit par terre.
Oui, on s'assoit par
comment
terre.
Comment c'est possible? Parce que là-bas, j'ai beaucoup de mal à trouver des places. On peut profiter. Hein.
Dans les jardins, oui. Il y a quand même des bancs ou des endroits pour s'asseoir, même assez intéressants comme ça, des bancs très larges où on peut s'asseoir de oui. cette façon-là, où aussi on peut poser son pique-nique, on peut manger. Mais sinon, on s'assoit par terre, avec un carton, un journal ou avec des nappes en plastique qui sont vendues à cet effet.
Est-ce que c'est fait tout du coup, j'ai pas l'habitude de s'asseoir par terre, sur le tatami pour manger hein. Que les bancs, c'est pas quelque chose d'habituel chez eux. Hein.
Non, les bancs, c'est relativement. Ça dépend. Il y avait dans les images anciennes, on voit des bancs aussi ou des pierres. Hein. On peut s'asseoir aussi sur des pierres. Mais c'est vrai que on s'assoit par terre. S'il n'y a pas oui. de banc, ça ne pose pas de problème. Hein. Au contraire, il y a ce contact. Avec les odeurs, avec les sensations.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir ou peut-être. Et alors, dans votre parcours de recherche, le fait d'avoir été architecte finalement et de connaître la ville, est-ce que ça a été un plus pour connaître la nature japonaise ?
Quand je suis arrivée au Japon, quand même, ce qui m'a étonnée, enfin, c'est ça, c'est ce rapport aux saisons. Quand je suis arrivée à Tokyo, bon, j'avais lu des livres, j'avais vu des films, des documentaires, donc ce que je voyais n'était pas... je le voyais en vrai, c'était bien, mais je n'étais pas vraiment surprise. Par contre, ce qui m'a étonnée, parce que ça, on ne peut pas le voir dans les livres ou même dans les films, ce sont les odeurs. Je suis arrivée en septembre, donc il pleut énormément, donc il y a une odeur de l'humidité très particulière. Et puis les sons, parce qu'il y a énormément d'insectes, donc la ville était bruissante de cigales, et puis le soir de grillons, et ça c'était très très impressionnant, parce que je ne connais pas de ville en Europe qui ont une telle présence sonore des insectes, hein. Donc les sons m'ont vraiment frappée, c'était ça qui était très dépaysant, donc... Le fait que je sois architecte, bon, enfin, j'ai été impressionnée par ce cycle, cette présence du cycle de la nature, donc parce qu'on peut en sentir, en entendre, et puis après, par toutes les pratiques, les décorations, les menus des restaurants, les façons de s'habiller, enfin, tout un tas de rituels qui se font de façon très, très courante.
Et donc, vous êtes orientée assez rapidement vers l'étude des pratiques
culturelles. Oui, parce qu'elle me semblait... l'espace, ce n'est pas le bâti, ce n'est pas le construit qui fait la ville au Japon, enfin à Tokyo particulièrement. C'est vraiment ce qui fait ville, c'est vraiment les pratiques, hein, c'est vraiment les usages, et notamment les usages de l'espace public. L'espace public n'est pas de même nature que le nôtre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de place dans le sens de la place de la Concorde ou de la place de la Bastille, mais il y a plein de lieux publics, donc des rues, des parcs, des jardins, et que l'on occupe. Il y a des appropriations très importantes. Donc on va poser ses pots de fleurs, on va s'installer dans la rue, on va travailler éventuellement. Hein, les artisans utilisaient les voies pour travailler. Aujourd'hui encore, on voit par exemple des menuisiers qui entreposent du bois le long de la rue. Enfin, il y a des usages de l'espace public, des appropriations qui n'existent pas ici. Et donc l'appropriation, elle se fait par l'usage, par la pratique.
Mais c'est assez paradoxal finalement par rapport à... Enfin, c'est assez paradoxal parce qu'il y a quand même énormément de restrictions au Japon, enfin de lois, de règles qu'il faut suivre à la fois dans la vie familiale et également au travail. Et finalement, dans cet espace public, les gens peuvent s'approprier... Les trottoirs qui ne se feraient pas du tout en France. Enfin,
oui,
je veux dire,
enfin,
en France, c'est juste
il y a des, je pense qu'il y a des règles partout. Il n'y a pas plus de règles au Japon qu'ici, mais on les intègre. Nous, on ne se rend pas compte de nos règles ou de notre façon de transgresser les règles parce que c'est notre culture, on est dedans. Donc forcément, on va remarquer les règles des Japonais, mais les règles des Japonais, ils les intègrent. On les intègre dès sa naissance, donc on ne va pas non plus les ressentir comme des règles, on va les ressentir comme le vécu. Donc c'est, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a plus de règles, il n'y a pas les mêmes règles, mais en tout cas, on peut faire un usage de l'espace public de façon, enfin, l'espace public a une certaine générosité. Notamment, par exemple, moi, ce qui me choque beaucoup à Paris, c'est la façon dont la voiture occupe tout l'espace public. Et où, par exemple, même dans le quartier, ce quartier ici, qui est un quartier récent, un urbanisme récent, on trouve encore ces systèmes pour traverser la chaussée quand on est à pied en deux temps. On doit traverser, rester planté au milieu et attendre que le deuxième morceau de la rue soit avec un feu vert, ce qui me semble une aberration totale. Et ça veut dire que le piéton n'est pas du tout accepté dans la ville, quoi. Il doit se faufiler entre les voitures. Et dans un quartier qui est urbanisé de façon tout à fait récente, redessiner, ça me semble quelque chose de très choquant. Alors que la façon de traverser les voies au Japon est complètement différente. Vous avez des grands carrefours en diagonale. Les voitures s'arrêtent partout, sur les quatre côtés, et on peut traverser en diagonale, on peut traverser dans tous les sens, et les piétons vont occuper complètement la chaussée pendant une ou deux minutes, quoi.
J'avais remarqué que au Japon, ce qui est impressionnant du sujet de la nature, c'est que l'été travaillé, depuis des millénaires, depuis des siècles, on a étudié, et ce que je suis belle, fabuleuse, pour que puisse profiter. Mais, toute part, ce qui m'a frappé, c'est justement les cimetières. Là, c'est vraiment différent. Ça va dans tous les sens. La nature qui envahit, les tombes, tout ça. C'est impressionnant la différence entre les cimetières et la nature par ses droits. Et toute part, il y a les jardins, les parcs, tout ça. Comme tous les chemins, tout ça. Il y a beaucoup de... C'est très réglementé, très travaillé.
Les cimetières, c'est un exemple intéressant. Dans Tokyo, les cimetières anciens ne sont pas clôturés par des murs. Ils sont traversés par des voies, des routes. Hein. On traverse en vélo le cimetière éventuellement pour aller de l'autre côté. Et quand je suis arrivée au Japon, le premier hanami que j'ai fait, c'était dans un cimetière justement de Somei, qui est un cimetière très ancien, avec beaucoup de cerisiers. Il y a souvent beaucoup de cerisiers dans les cimetières anciens de Tokyo, et donc on va profiter des cerisiers aussi dans ces cimetières anciens, où il y a des tombes en plus de personnages célèbres, d'écrivains, de poètes, ou des histoires qui se sont passées, enfin, qui sont en référence avec l'histoire de la ville, justement avec des mémoires liées à des formes d'anecdotes ou d'histoires qui se sont ancrées là.
Bon. Je ne sais pas si Alexis, tu veux rajouter quelque chose.
Pardon.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que l'intervention de Sylvie t'évoque
J'ai pas pu. dire énormément de choses sur le livre, le carnet que j'ai fait. Hein, parce que c'est pas évident de commenter les dessins que j'ai fait sous le vif. Hein. C'est quelque chose de très difficile, hein, quand on ne se passe à dessiner. Hein. On ne réfléchit pas, hein, on parle de ce qui nous plaît. Hein. Mais ce que vous avez remarqué au sujet du livre, hein, sur le Japon, et aussi aux photos que Sylvie a prises, hein, c'est la profusion de la nature, la place du verre. Le verre qui envahit les maisons. Il y avait une différence. Hein. Il y avait un petit dessin que j'ai fait, hein, sur une petite maison. Et j'ai dessiné les plantes. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai dessiné ça. Hein. J'ai trouvé ça fabuleux. Hein. Soit il y a des maisons, où il n'y a rien, il n'y a que le mur. Hein. Soit il y a la personne, la propriétaire, mais une petite plante. Hein. Une petite plante à la façade. Hein. Et là, après, il le met encore, jusqu'à envahir toute la façade. Hein. Ça, c'est vraiment très, très beau, hein, très magnifique. Hein. Le Japon, ça suscite pur, hein, si on aime vraiment la nature, le côté traditionnel des choses. Hein. Et aussi, d'autre part, on l'aime pour ce côté très moderne. C'est incroyable, hein, un pays qui a des cultures très différentes, hein, mais qui arrive à se rejoindre. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Voilà.
Ok. Eh bien, merci beaucoup pour vos interventions respectives. Et ben voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.
À merci.
Bientôt. Merci.